Alors ce soir, j'aimerais parler sur un livre dont on parle très peu. Il y a très peu de pasteurs qui s'aventurent, y compris moi, dans ce livre. C'est lequel? Cantique des Cantiques. Alors, si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, prenez-le. Il se trouve juste après les livres de Salomon, donc après l'Ecclésiaste. Avant de commencer, dans certaines Bibles, par exemple dans ma Bible avec les notes Scofield, il y a des personnages qui sont mentionnés. La Sulamite, les filles de Jérusalem, la Sulamite, les filles de Jérusalem, Salomon, etc. Ce n'est qu'une interprétation, ce n'est pas dans le texte hébreu. Dans le texte hébreu, on ne sait pas qui parle. Ce n'est pas dit à chaque fois, c'est la Sulamite qui parle ou Salomon qui parle. C'est à nous de deviner. Ce qui n'est pas chose facile. Donc, ceux qui ont fait la Bible Scofield ont mis leur interprétation de qui parle, mais sachez que ce n'est pas le texte, ce n'est pas dans le texte hébreu. Le Cantique des Cantiques a toujours été attribué à Salomon et il fait partie des Mégilotes. Les Mégilotes, c'est un mot hébreu qui veut dire les rouleaux. Et il y a 5 rouleaux qui étaient lus dans l'année juive, et qui sont toujours lus la plupart du temps dans l'année juive, pour des fêtes particulières. Le livre d'Esther, par exemple, est lu à la fête des Pourim. Pourim, c'est la fête des cadeaux et c'est à l'occasion, justement, de cette victoire d'Israël sur les ennemis, ceux qui voulaient leur destruction. Sous la houlette de Haman dans le livre d'Esther. Et donc tous les ans, à la fête de Pourim, ils lisent le livre d'Esther. Tous les ans, à la fête de Soukhot, des tabernacles, là vous savez où les Juifs font une petite tente, quelquefois ils mettent la tente dans leur salon quand ils vivent en appartement, ou alors ils mettent dans le jardin quand ils vivent dans une maison, et ils passent quelques jours sous la tente pour se rappeler qu'ils étaient en pèlerinage. Et cette fête, eh bien, on lit l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste qui dit « vanité des vanités », c'est-à-dire le confort matériel est une vanité, ce qui compte c'est d'avoir Dieu. Un autre livre qui est lu pendant le mois de juillet-août, bientôt là, c'est les Lamentations de Jérémie pour se rappeler aussi les souffrances de Jérusalem et le jugement de Dieu sur Israël. C'est un moment d'humiliation et de lamentation, comme le dit le livre de Jérémie. Pour la Pentecôte ou Shavuot en hébreu, c'est le livre de Ruth qui est lu, puisque il y a une question des moissons dans le livre de Ruth, et Ruth peut glaner les épis pendant la moisson, et donc, comme la fête de Pentecôte, c'est une fête des moissons, ils lisent le livre de Ruth. Et puis, le cinquième Mégilote, le cinquième rouleau, c'est le Cantique des Cantiques. Il est lu le jour du sabbat de la semaine de Pâques. Donc cette grande semaine de Pâques qui parle de la délivrance du peuple juif d'Égypte, ils lisent le Cantique des Cantiques. Pourquoi cela? Parce que pour tous les interprètes juifs du Cantique, c'est un livre qui parle de l'amour entre Dieu et son peuple, entre son peuple et lui. Ce n'est pas juste un livre d'amour banal. Voilà. Pourquoi il s'appelle le Cantique des Cantiques? C'est en hébreu, c'est vraiment le Cantique suprême. C'est ça que ça veut dire. C'est le chant d'amour absolu, d'amour suprême. Et c'est vrai que c'est un livre d'une grande poésie pour ceux qui connaissent l'hébreu. C'est du très haut niveau littéraire, si on peut dire. C'est de la grande poésie. Et ça décrit l'amour comme peu de cantiques, de chants ou de poèmes l'ont décrit. Ça décrit la fiancée, ça décrit le fiancé, et il y a des images de la nature. Tu es beau comme un pommier, tu es beau comme une tour. Il essaye de trouver des images qui dépeignent l'être aimé. Alors bien sûr, ce livre embarrasse quelquefois, et d'ailleurs chez les Juifs, on n'a pas le droit de le lire avant d'avoir 30 ans. Parce que comme il y a certains passages qui décrivent l'anatomie de la femme, ils ne veulent pas exposer un enfant à cela, ils ne comprendraient pas déjà, et puis ils disent non, pas avant 30 ans. Alors 30 ans, c'est tard quand même. Hein. Quel est le point commun, quel est, avec quel livre le Cantique des Cantiques a un point commun? Il y a que deux livres comme ça dans la Bible. Le Cantique des Cantiques et un autre. Une absence de quelque chose. Dans l'ancien aussi. Voilà. Il partage avec le livre d'Esther l'absence du nom de Dieu. Vous ne trouverez pas le nom de Dieu dans le Cantique des Cantiques. Et pourtant, c'est dans la Bible. Ces deux livres sont dans la Bible. Et nous croyons qu'ils sont inspirés. Mais le livre d'Esther, en fait, on voit Dieu partout, du début à la fin du livre, sauf qu'il n'est jamais nommé. Mais on voit sa providence qui met toute chose en place. Le fait que le roi se fâche avec sa femme, qu'il en cherche une autre, comme par hasard, il tombe amoureux d'une juive, et cette juive, comme par hasard, va être placée là où il faut, au moment où on veut détruire Israël. Donc on voit la main de Dieu dans tout le livre d'Esther. Dans le Cantique, eh bien, Dieu est justement l'être aimé, et il est partout dans ce livre, bien qu'il ne soit pas nommé. Alors le plus difficile avec le Cantique des Cantiques, c'est d'essayer de comprendre l'histoire. Si vous avez déjà essayé de le lire, vous aurez peut-être du mal à comprendre le fil conducteur, et il y a plusieurs interprétations, c'est ça qui est compliqué. Je vais donner les deux principales, et je vais essayer d'être le plus simple possible. Dans l'interprétation principale, il y a deux personnages simplement dans ce livre, Salomon et la Sulamite. La Sulamite, c'est une femme qui travaille dans des vignes et elle travaille dur, elle est tout le temps dehors et c'est pour ça qu'elle est très bronzée. Et elle est une fille un peu paysanne. Et le roi Salomon visite ses vignes parce qu'en fait, elle est certainement au service du roi. Le roi possédait des terres et des terres et il avait beaucoup de serfs qui travaillaient pour lui. Et il se déguise en homme simple, en berger, et il va visiter ses vignes, et là, il tombe amoureux follement de cette Sulamite. Et ensuite, il revient avec tout son cortège, et il l'amène avec lui au palais pour qu'il se marie. Et après le mariage, il y a un moment, justement, où elle s'éloigne de lui, elle ne lui répond pas, et elle craint de perdre l'amour de Salomon, et puis finalement, ils se retrouvent tout à la fin. Ça, c'est l'interprétation générale ou majoritaire de ce livre. Il y a une autre interprétation minoritaire de certaines personnes qui disent qu'il y a trois personnages. Il n'y a pas juste Salomon et la Sulamite, il y a un troisième là, qui est le vrai amoureux de la Sulamite, qui est le berger, parce qu'il est question d'un berger à un moment. Et donc, leur interprétation de ce livre, c'est que Salomon vient voir la Sulamite. Et elle décrit son vrai amoureux qui est un berger, qui est beau, qu'elle aime, qu'elle veut épouser. Et Salomon, lui, il veut prendre la Sulamite avec lui. Parce que Salomon, comme on l'apprend dans la Bible, c'était un homme à femme. Il voulait posséder des femmes et des femmes. C'était devenu obsessionnel pour lui. Et ça a été une occasion de chute. Et donc, il a voulu prendre la Sulamite et l'amener dans son harem. Puisqu'il avait un harem. Et elle ne peut pas dire non. Mais en fait, son cœur est attaché à son vrai amoureux, le berger. Et jusqu'au bout, elle va toujours penser à l'autre. Cette interprétation est très intéressante, sauf qu'elle a des problèmes avec certains versets de ce passage. Ça ne colle pas toujours bien. Mais je trouve qu'elle est intéressante parce que ça pourrait imager... Salomon pourrait imager la religion qui vous force à croire, à aimer, le Dieu qui vous force à aimer, et puis le berger, ce serait Jésus-Christ, celui que vous aimez vraiment, celui qui est aimable, et non pas un Dieu qui vous force. Les idoles païennes étaient très dures, très violentes, très cruelles, alors que le Dieu d'Israël, le Seigneur, le berger d'Israël, était un Dieu de grâce. Donc, c'est intéressant comme interprétation, mais on n'est pas sûr que ce soit ça. En fait, le problème, c'est quand on veut tout allégoriser dans ce livre, c'est-à-dire, on pense que chaque mot, chaque truc a un symbole, une signification. Alors, si on commence là-dedans, on part dans des élucubrations à n'en plus finir. C'est vrai que ça ressemble beaucoup au style de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, où il y a beaucoup d'allégories. il ne dit pas Jérusalem ou Rome, il dit Babylone, par exemple. Hein. Or, Babylone, ça a plusieurs interprétations. C'est une allégorie de certaines villes. Il ne dit pas quel est le signe, la marque exacte de l'Antéchrist. Il dit c'est 666. Mais c'est symbolique, c'est allégorique. Qu'est-ce que ça veut dire, 666 hein? Alors, on pense que c'est trois fois l'homme, hein, 666, au lieu de trois fois sept, trois fois Dieu. Mais donc, il y a plein d'allégories. Mais attention, si vous prenez trop comme ça, chaque personne va avoir son interprétation et on quitte vraiment l'interprétation de la Bible. Il vaut mieux lire le Cantique des Cantiques comme un poème d'amour et retirer certains versets qui sont vraiment touchants, qui figurent l'amour entre l'homme et Dieu. Alors, il y a une différence entre une allégorie et une description figurative. Alors, désolé de rentrer dans ce petit détail, mais une allégorie, c'est que vous décrivez quelque chose qui n'existe pas, d'imaginaire, et c'est censé représenter une réalité. Par exemple, si je vous décris une ville imaginaire, voilà, j'écris un livre de science-fiction, j'écris une ville totalement imaginaire, mais en fait, en décrivant cette ville imaginaire, je pense à Paris. Donc ça, c'est une allégorie. Le figuratif, c'est vous prenez quelque chose de réel, mais vous lui donnez un double sens. Par exemple, vous décrivez la ville de Paris, mais vous dites « certains quartiers de la ville de Paris font penser à la Jérusalem céleste », par exemple. Donc vous prenez quelque chose de réel et vous en tirez des applications. Or là, on pense que c'est un poème d'amour qui a peut-être, il s'est peut-être passé certaines choses avec Salomon et une femme qui s'appelait la Sulamite, mais qu'on doit en tirer une leçon, si on peut dire, spirituelle, dans notre relation avec Dieu. Sulamite, ça vient d'une petite ville, un petit village qui s'appelait Sunem. Alors c'est Sunamite ou Sulamite, c'est pareil. Sunem, c'était au nord de Nazareth. Donc c'était dans la Galilée. C'était loin de Jérusalem, loin du palais du roi, puisque Salomon, lui, régnait à Jérusalem. Il y avait une femme Sunamite dans la vie du père de Salomon, dans la vie de David. Elle s'appelait Abishag. Elle est dans le livre des rois et c'est elle qui s'est occupée de David quand il était vieux. Donc, les Sunamites étaient peut-être connues, en tout cas les femmes, pour s'occuper des personnes, des hommes. Peut-être que c'était des femmes d'une grande qualité qu'on recherchait dans les palais du roi. Au chapitre 1, versets 5 et 6, elle dit « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. » Elle n'est pas une Africaine. Quand elle dit « Je suis noire », elle veut dire « Je suis bronzée. » Parce que les Sunamites n'étaient pas Africains, ils étaient Israélites, hein, comme les autres. Mais elle, aux yeux des femmes du palais dans le harem, elles étaient blanches, laiteuses, hein, puisqu'elles ne sortaient quasiment jamais. Alors une fille qui allait dans les vignes, qui travaillait dans les champs, elle avait l'air noire. Voilà, hein, elle était bronzée. Et c'est pour ça qu'elle dit « je suis noire ». Et à l'époque, c'était un peu mal vu. Hein, aujourd'hui, on a renversé totalement les choses. La beauté, c'est d'être bronzé. Le teint halé. Alors qu'à l'époque, la beauté, c'était la blancheur laiteuse. Et elle dit « c'est le soleil qui m'a brûlé ». Verset 6 du Cantique, chapitre 1. « Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » C'est-à-dire, elle a été exploitée par les fils de sa mère. Peut-être ses demi-frères. Hein? Parce qu'elle ne dit pas mes frères, elle dit les fils de ma mère. Donc peut-être que ses demi-frères l'ont pris en grippe et l'ont dit « Toi, tu vas travailler pour nous, tu vas être notre esclave. » Et donc c'était une femme qui souffrait, qui était exploitée, qui travaillait non pas pour sa propre vigne, mais pour la vigne des autres. Et ça peut être figurativement l'image de l'homme ou de la femme qui est esclave du diable, hein, qui est esclave du péché, qui au lieu de s'épanouir dans sa vie par la grâce de Dieu, eh bien, il souffre en travaillant pour les autres. Et puis, elle rencontre un homme. Voilà, verset 7. « Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons ?» L'homme répond, « Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. » Et donc, ici, il y a un responsable de troupeau, c'est plus qu'un berger, hein, c'est un propriétaire de brebis. Et elle est amoureuse de lui, elle dit « Oh, toi que mon cœur aime !» Qui est ce berger ? Alors, peu importe que ce soit Salomon ou un autre, nous, ce qu'on veut voir, c'est cet amour pour Dieu. Dieu s'appelle souvent le berger dans la Bible. Hein. Jésus-Christ est le bon berger et nous sommes ses brebis si nous avons cru en lui. Et le berger a cette qualité d'être vraiment tendre avec ses brebis, de s'en occuper, d'être extrêmement fidèle, persévérant, de les défendre coûte que coûte. Le berger, c'était vraiment à la fois humble et en même temps extrêmement glorieux aux yeux de Dieu comme métier, puisque ça symbolisait l'amour de Dieu pour son peuple. Hein. Dieu était le berger des brebis. Le Cantique des Cantiques est donc un hymne à l'amour et il présente un moment, un mariage, hein, une union entre un homme et une femme dans un amour extraordinaire. Et vraiment, on peut voir là l'amour entre Dieu et son peuple. Dans la Bible, Israël est souvent appelée l'épouse de Christ et ensuite, c'est l'Église qui est appelée comme ça. Alors, si vous prenez par exemple Ésaïe 62, verset 5, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Oui, verset 4. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus terre de désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Qui est l'époux de la terre d'Israël ? C'est le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et donc il compare Israël et le pays d'Israël à son épouse. Pareil, dans le Nouveau Testament, si vous prenez Éphésiens 5, 31, Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et un peu plus tôt, verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Il semblerait que Dieu ait instauré le mariage pour, comme symbole d'une certaine façon, de sa relation avec nous, avec son peuple, de ceux qui croient en lui. Après tout, pourquoi Dieu a-t-il inventé le mariage ? On sait qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage, par exemple. Hein, il dit, il n'y aura ni mari ni femme dans le ciel. Ça choque beaucoup souvent. On se dit, ben alors, mon mari, ben ton mari, tu l'aimeras, mais on s'aimera tous d'un amour extraordinaire. Il n'y aura pas de relation physique, hein, sexuelle, et il n'y aura pas de couple. On ne va pas habiter dans sa maison au ciel. On ne va pas avoir sa petite maison en couple, en famille. Voilà. Il y aura des demeures au ciel, mais ce ne sera pas la demeure de la famille untel, de la famille untel. Mais sur terre, nous sommes appelés les épouses, l'épouse de Christ, et Christ nous a aimés, et il a donné sa vie comme un époux devrait donner sa vie pour son épouse. Et on voit que Dieu a inventé le mariage pour symboliser cet amour qu'il a pour nous. Quand il dit « deviendront une seule chair », Dieu voulait parler de là, de cette union qu'il voulait avec l'être humain. Pourtant, Dieu est Dieu et nous, nous sommes que des créatures. Néanmoins, le Seigneur a voulu qu'on soit une seule chair avec lui, puisque Christ est devenu un être humain. Il s'est incarné et il nous a donné son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous si nous croyons en Jésus-Christ. Il y a une union entre nous et Dieu. Est-ce que nous le réalisons correctement ? Que lorsque nous avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit et qu'il y a donc une union entre nous et Dieu qui n'est pas du tout charnelle, hein, qui est spirituelle et profonde. On fait un avec lui. Et il veut qu'on soit de plus en plus un avec lui. Comme dans le mariage, un couple doit être de plus en plus uni. Dans la relation avec Dieu, on doit être de plus en plus uni avec lui. Et on doit vraiment travailler à cette relation. Et ici, ce cantique des cantiques vraiment nous inspire parce que il décrit la beauté de l'autre. D'abord, il dit « Ah, combien je t'aime, combien tu es beau. » Il parle de ça. Parfois, et c'est un peu le but des cultes, hein, de la louange dans l'Église, c'est de dire à Dieu combien nous l'aimons, combien il est beau. Et pas beau dans le sens physique, hein, combien il est beau dans le sens spirituel. Il est parfait pour l'éternité. Et puis, il y a d'autres passages aussi qui parlent de notre relation avec Christ comme un époux. Il y a 2 Corinthiens 11, verset 2. Paul écrit, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Voilà. Ici, il y a l'image du mariage oriental. Dans le mariage oriental, la jeune fille vierge était promise à un homme. Et les parents faisaient des fiançailles officielles où elle était promise, et rompre ces fiançailles, c'était comme un divorce. De la même façon, Marie et Joseph étaient fiancés quand elle est tombée enceinte. Ils n'étaient pas officiellement mariés, mais ces fiançailles étaient très solides. Hein, ça voulait dire beaucoup d'être fiancés. On était promis et il n'y avait pas d'autre homme, il ne fallait pas regarder quelqu'un d'autre. Hein. On était promis. Parce que à cette époque-là, la jeune fille ne choisissait pas son mari, ou rarement. Et ce qui est intéressant avec notre foi dans le Seigneur, c'est que nous, quand nous avons cru, nous sommes maintenant promis à Christ. C'est-à-dire, le Saint-Esprit en nous dit, tu appartiens à Jésus-Christ pour toujours. Quand il va revenir, il va te prendre parce que tu es son enfant. Et il va t'amener avec lui là où il est et tu seras toujours avec lui. C'est cette image du mariage. Et le mariage, les noces de l'agneau, hein, qu'on trouve en Apocalypse 19. Je vais lire donc Apocalypse 19, verset 6. « J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Voilà. Et donc il y aura, juste avant le retour en gloire de Christ, puisque juste après, dans ce passage, hein, c'est la bataille d'Armageddon lorsque Christ écrase les hordes ennemies. Eh bien, il y aura dans le ciel ces noces de l'agneau entre l'Église et Christ. Donc, le mariage entre nous et Christ, ce n'est pas la conversion, par exemple. Hein. Dans l'image hein, de la Bible, quand on se convertit, on est fiancé, on est promis à Christ. Et quand il reviendra et quand on sera semblable à lui, ce sera les noces de l'agneau. Là, on sera un. Pourquoi on ne peut pas être encore marié? Pourquoi on ne peut pas être un avec lui aujourd'hui? Parce que le péché est toujours dans nos vies. Nous ne sommes pas encore ressuscités, nous ne sommes pas encore totalement délivrés. Enfin, plutôt, oui, délivré de tout péché. Et donc, il ne peut pas y avoir encore ce mariage qui doit être entre une vierge hein, pure et le Seigneur qui est parfait. Et donc, c'est quand on sera ressuscité, quand il n'y aura plus aucun péché dans nos vies, que nous pourrons être dans ces noces. C'est pour ça que la parabole des 10 vierges en Matthieu chapitre 25 fait allusion au retour en gloire de Jésus-Christ. Vous savez, les vierges qui doivent attendre. C'est ce que faisaient les amis du marié et de la mariée. La mariée, elle, eh bien, allait chez son époux pour recevoir donc la dot, etc. Et puis elle revenait chez elle, et chez elle, elle attendait l'époux qui allait, le fiancé, hein, qui allait venir, et ils entraient tous les deux dans la salle des noces. Et des fois, il se passait des mois entre les fiançailles et la dot, et le jour où le fiancé venait. Et il fallait attendre des mois et des semaines qu'il attend. Et l'épouse attendait dans la salle des noces, ou attendait chez elle, hein, chez son père, et puis il y avait les amis de l'époux. Et les 10 vierges, hein, dans cette parabole de Jésus, ce sont les amis. Ce n'est pas la mariée, hein. Il n'y a pas 10 mariés. Ces amis, eh bien, devaient prévenir la mariée quand elle voyait au loin le fiancé qui arrivait avec son cortège, parce qu'il avait un cortège avec ses amis, sa famille, hein, ses chameaux et ses ânes, où il venait prendre sa femme pour épouse. Et donc, les vierges dans la parabole, certaines attendent avec persévérance, et puis d'autres ne considèrent pas que l'époux mérite d'être attendu aussi longtemps, et donc elles n'ont pas pris assez d'huile. Et lorsqu'il arrive, elles n'ont plus d'huile et elles ne peuvent plus entrer dans la salle des noces avec les autres. Et c'est vraiment l'image que l'Église, l'épouse n'est pas là. Elle est déjà rentrée, elle. Elle est déjà au ciel. Lorsque Christ va revenir, et ça parle de la grande tribulation en fait, hein, pendant la tribulation, les croyants de cette époque devront persévérer jusqu'au retour de Christ, qui est l'époux, hein, qui viendra avec son épouse. Et il faudra attendre Christ avec une grande ferveur, avec une grande piété, avec une grande persévérance, malgré les persécutions qui auront lieu pendant cette tribulation. Et c'est ça l'image des vierges sages et des vierges folles. Hein. Pendant la tribulation, il y a des gens qui vont dire « Oui, je veux bien croire en Jésus, mais là, c'est trop long. Je ne peux plus. Et ça ne mérite pas que j'attende et que je souffre autant. » Et donc, ils vont arrêter. Hein, ils ne vont pas aller plus loin dans leur foi. Ça existe aujourd'hui. Même si on n'est pas du tout dans la tribulation, des personnes qui viennent à l'Église, qui entendent l'Évangile et qui disent « Ah oui, ça m'intéresse bien, j'aime bien cette idée que Dieu nous aime, etc. » Et puis dès qu'il y a un petit problème qui arrive dans leur vie, « Oh non, non, finalement, c'est trop dur la vie chrétienne. Hein, c'est trop de sacrifices, j'en veux pas. » Et ils se retirent. Ce sont des vierges folles aussi. Hein. C'est le même genre. J'aimerais ce soir donc terminer avec quelques grandes vérités qui sortent du Cantique des Cantiques. D'abord, c'est que l'être aimé surpasse tout. Je vais vous lire quelques extraits. Donc, Cantique chapitre 1, verset 2, par exemple. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. C'est-à-dire, ton amour surpasse tout. Ton amour m'enivre, hein, ton amour est plus agréable que le vin le plus capiteux, hein, et le plus ancien. Cantique chapitre 2, versets 2 et 3. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. J'aime beaucoup ces images. L'époux, la fiancée, il dit « Tu es comme un lys au milieu des épines. » Quand vous avez un tas d'épines, là, un buisson d'épines, et qu'au milieu il y a un lys, qu'est-ce que vous remarquez? Les épines ou le lys? Hein, vous remarquez le lys, c'est une quelle beauté, quelle fleur magnifique, et le reste c'est des épines. Et donc pour lui, toutes les filles étaient comme des épines. Il ne voyait que sa bien-aimée qui ressemblait à un lys. Pour elle, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. Elle dit, tu es comme un pommier au milieu des arbres. Vous savez, le pommier, surtout quand il est en fleur, il est magnifique. Hein, le pommier, en plus, quand il est âgé, c'est un arbre, vous savez, très rond, hein, pas très haut, très rond. Et quand il est tout en fleur, il est magnifique. Ça ressort par rapport au moindre... platane ou chêne vert, hein, qui n'a pas de couleur et qui est tout droit. Hein. Elle dit, tu es comme un pommier au milieu des autres arbres. Les autres arbres ne m'intéressent pas, c'est toi qui m'intéresse, c'est toi qui es beau. L'être aimé surpasse tout. Cantique chapitre 5, verset 10. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Il se distingue entre 10 000. Alors on peut appliquer ces versets, hein, cette idée de l'être aimé surpasse tout, de deux façons. On peut l'appliquer au mariage, dire est-ce que mon époux, est-ce que ma femme est comme ça pour moi? Est-ce que ma femme est une femme parmi d'autres? Est-ce que mon mari est un homme parmi d'autres? Ou est-ce que je le regarde avec cet amour comme un diamant en disant, voilà, tu es précieuse à mes yeux? Ça, c'est l'amour qui peut faire ça. Ce n'est pas que votre mari ou votre femme est un top modèle d'une beauté extraordinaire. C'est pas ça. Même la personne n'est peut-être pas très jolie, mais dans vos yeux enamourés, cette personne est belle. Tout est dans l'amour. Et on peut l'appliquer, là encore, à notre relation avec Dieu. Est-ce que le Seigneur Jésus a un attrait pour nous ou est-ce que dans ma journée ou dans mes affections, ben, il fait partie, oui, bon, il fait partie de ma vie, bon, ben, j'ai mes amis, j'ai mes activités, j'ai mon sport, j'ai mes vacances, puis j'ai Jésus. Est-ce qu'il est comme ça au milieu des autres? Ou est-ce qu'il ressort comme un pommier au milieu des arbres, hein? Encore une fois, ce n'est pas juste les qualités de Christ qui le font ressortir. C'est mon regard vers lui. Est-ce que je l'aime plus que tout? Le Seigneur doit avoir une place unique. Hein? Christ a dit lui-même, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Le Seigneur réclame hein, une adoration et quelque chose d'exclusif, quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer ses parents, ses frères, ses enfants. Mais il dit, je dois être au-dessus parce que je ne suis pas juste un simple copain. Hein. Je suis le Seigneur. Une autre vérité du Cantique des Cantiques, c'est que l'amour efface les défauts. Ah, ça, j'aime bien. Cantique 4, verset 7. Tu es toute belle, mon amie, et il n'y a point en toi de défaut. Tout simple, hein? Et ça nous fait penser à cette histoire de Balaam. Vous connaissez Balaam dans le livre des Nombres? C'est un faux prophète. Et le peuple juif était en train de pérégriner hein, dans le désert et dans certaines régions de Canaan. Et puis il y a un roi qui veut détruire Israël. Alors il appelle Balaam, le faux prophète, il dit « Viens maudire Israël, puisque tu es un grand prophète, je te demande de maudire Israël. » Alors Balaam, après plein d'épisodes, finalement vient en haut d'un promontoire hein, et il regarde les tribus en bas, là, toutes rassemblées, parce qu'elles étaient très ordonnées, hein, les 12 tribus autour du tabernacle. Et il va pour maudire. Et au moment où il veut maudire, voilà, Nombre 24, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Le Saint-Esprit s'empare de lui, contre sa volonté, si on peut dire. Nombre 24, verset 5. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël, elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag. Agag, c'était le roi qui voulait faire maudire Israël. Et son royaume devient puissant, etc. Il fait toute une description poétique des beautés d'Israël. Or, si vous vous étiez approché des 12 tribus, vous auriez vu des gens qui marchent depuis des années dans le désert, pas toujours très propres, pas toujours très élégants, dans des conditions difficiles de poussière, de chaleur, de transpiration. Mais aux yeux de Dieu, il dit « Quelles sont belles tes tentes !» Et ce qui est touchant, c'est que plusieurs héros de la Bible, hein, quand ils sont décrits dans le Nouveau Testament, Dieu ne donne aucun défaut. Il dit « Regarde mon serviteur, hein, regarde ce qu'il a fait. » Le Seigneur a ce regard, lorsqu'on lui appartient, qu'on est son enfant, il ne veut plus regarder les défauts. Hein, il regarde avec ses yeux d'amour, avec ses yeux de grâce. Et c'est pareil pour nous. Nous avons des défauts, mais en Christ, nous sommes justifiés, dit la Bible. Le sang versé de Christ nous justifie, nous rend blancs comme la neige. Aux yeux de Dieu, nous sommes pardonnés, totalement pardonnés. Et le Seigneur, bien qu'il connaisse nos défauts, il ne veut pas s'y arrêter. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il dit: je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car vous avez été comblés de toutes les richesses, etc. Il ne vous manque aucun don. Il vous affermira jusqu'à la fin. Et puis après, quand vous lisez l'Épître aux Corinthiens, vous vous rendez compte qu'ils avaient beaucoup de péchés, d'erreurs, de déviations, de problèmes, ces Corinthiens. Mais ils commencent l'Épître en disant: je rends grâce à Dieu pour vous. Et c'est vraiment le regard de Christ. Quand il nous voit couverts par le sang de Jésus-Christ. Bien sûr, le Saint-Esprit et la Bible nous exhortent à nous sanctifier, hein, on le sait ça. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes beaux parce qu'il nous aime. Une autre vérité, c'est que l'amour n'est pas à moitié avec Dieu. Cantique 2, verset 16, un très beau verset, très important. Cantique, chapitre 2, verset 16. « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Encore une fois, c'est tout simple. La poésie, c'est très simple. Hein? Mais ça veut dire beaucoup. Il est à moi et je suis à lui. Nous nous appartenons l'un l'autre. Ça fait penser dans le Nouveau Testament entre le mari et sa femme. Hein? Il dit le corps du mari appartient à sa femme et le corps de la femme appartient à son mari. Et on se donne l'un à l'autre. C'est ça le vrai amour, le vrai mariage sur la terre. C'est se donner à l'autre, c'est pas se prendre. Hein. Et là, il dit ça par rapport à Dieu aussi. Je suis à Dieu, mais il est à moi aussi. Et c'est ça la vraie foi. La foi de superstition, c'est je suis sous les ordres du Dieu qui va me punir si jamais je n'obéis pas à tout ce qu'il me dit. Mais la foi dans le Dieu de la Bible, c'est une relation d'amour qui est très différente de la superstition et des idoles. Et c'est vrai que je suis à Dieu, mais il est à moi aussi quelque part. Il s'est donné pour moi, il habite dans mon cœur, il s'occupe de moi, il est venu dans ma vie. Et je peux le prier, l'invoquer, lui demander de l'aide et il vient à mon secours. Il y a cette relation avec le Seigneur. Christ s'est donné à nous, il a livré sa vie pour nous. Désormais, je suis à lui depuis que j'ai cru en lui. Mais lui, il s'est donné à moi aussi. C'est une interdépendance entre nous. Et puis, une autre vérité, c'est que l'amour peut être très fort et très fragile à la fois. Cantique chapitre 8, versets 6 et 7. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Ah, il y a quand même le nom l'Éternel une fois. Donc, notez-le bien, hein, c'est l'exception dans ce livre. Mais l'amour est fort comme la mort, c'est très connu aussi. Hein. Ceux qui aiment bien les citations hein, des grands auteurs connaissent ces citations de la Bible. Hein. L'amour est fort comme la mort. C'est-à-dire, quand on aime, c'est à fond. Hein. Ce n'est pas à moitié. Et c'est un amour très fort, très brûlant ici, hein, comme les flammes de l'Éternel. Et un autre verset qui est très intéressant, c'est la suite d'ailleurs. « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, verset 7, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » C'est ce verset qui fait penser qu'il y a un autre amoureux, que Salomon veut lui offrir plein de présents, de trésors, en disant « Deviens ma femme, regarde, je ferai de toi une femme riche dans mon harem. » Et puis elle lui dit « Non, tu ne peux pas acheter l'amour. Hein? » Si un homme hein, offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirait que le mépris. On n'achète pas l'amour. Les gens riches ont plein d'amis. Les hommes riches ont plein de femmes autour d'eux. Mais ce n'est pas l'amour. Ils sont souvent très seuls, assez tristes. Ah, ils s'amusent, mais il n'y a pas l'amour, parce que ça ne s'achète pas. Vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, vous n'achèterez pas quelqu'un qui vous aime. Même l'amour corrompt, l'argent corrompt l'amour. Puisque vous ne savez plus si la personne est là pour votre argent ou parce qu'elle vous aime. Et la personne elle-même ne sait plus où elle en est. Elle dit, est-ce que je m'intéresse à lui ou à elle parce qu'il est riche ou parce que je l'aime vraiment ? Difficile. Et l'amour est fort, plus fort que l'argent, plus fort que les fleuves. Il est inflexible comme la mort. Ça, c'est le vrai amour qui est fort. Et c'est l'amour de Dieu pour nous. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, même pas le diable, même pas la mort, puisque quand nous mourrons, nous entrerons dans la présence de Dieu. Il dit ainsi comme un sceau, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, le sceau, c'est vraiment la marque d'appartenance, je t'appartiens, nous sommes scellés du Saint-Esprit. L'amour peut affronter les plus grandes épreuves, il peut durer longtemps sans jamais s'éteindre. Là encore, l'image pour le mariage, c'est que ce n'est pas parce qu'on a 20 ans de mariage que l'amour doit être éteint. Et ça s'entretient, il doit y avoir quelque chose qui se passe dans le mariage pour que l'amour brûle toujours. Et pareil, dans notre relation avec Dieu, on doit entretenir notre communion avec lui. Mais l'amour peut être fragile aussi. Cantique 2, verset 15, encore un verset bien connu. Cantique 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Effectivement, il y avait en Israël, dans les vignes, des renards qui sortaient la nuit et qui mangeaient tous les raisins. Et c'était une catastrophe. Il fallait s'en débarrasser, les empêcher. Et ces petits renards, parce qu'ils étaient tout petits, ce n'étaient pas des grosses bêtes, ils se faufilaient entre les pieds de vigne et hop, ils mangeaient tout. Et c'est un peu l'image des petites choses, des petits renards qui rongent l'amour, qui défont l'amour. Des petits détails. On a vu dans le film Fireproof que des petits détails pouvaient démolir la relation entre un mari et sa femme et que des petits détails pouvaient rétablir l'amour. Je continue de lire le livre Savoir aimer là, qui va avec le film. C'est vraiment très bien fait, très intéressant. Et il donne des petits détails pratiques à faire pour entretenir cet amour. Et c'est pareil avec le Seigneur, on doit enlever les renards de notre vie. Les petites rébellions, désobéissances, péchés, idoles, tout ce qui se met entre nous et l'amour fort de Dieu. Le Seigneur, lui, nous aime d'un amour total, 100% dans son cœur. Lui, il ne dit pas « Ah non, j'aime un peu plus les anges que toi ou un peu plus les animaux. » Non, il nous aime à 100%. Il a prouvé, il a donné sa vie pour nous. Et nous, à combien de pourcents nous aimons le Seigneur ? Et puis le dernier passage que j'aimerais souligner, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est celui où la Sulamite a négligé l'appel de son bien-aimé. C'est au chapitre 3. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Et pourquoi elle ne l'a pas trouvé ? C'est que lorsqu'il l'a appelée, elle a dit, elle était couchée, elle dit « Laisse-moi. » je suis déjà toute préparée pour la nuit, j'ai toute ma crème là que j'ai mise, je ne peux pas me lever. Et quand elle se lève pour aller à sa rencontre, lui il est parti. Et puis verset 2, elle dit « Je chercherai celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. » Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. C'est un passage très intéressant, c'est que le fiancé vient la voir pour lui manifester son amour, son affection, puis elle dit « Ah, laisse-moi. C'est pas le moment, là, je suis toute huilée, je suis prête, tu me déranges. » Et puis après, elle dit « Bon, ben, il me manque quand même, j'aimerais le voir. » Alors elle se lève et puis « Ah, mais il est plus là, il est parti. » Et elle doit courir partout, hein, le chercher, et elle demande aux gardes « Est-ce que vous avez vu ?» Et elle est dégoulinante sûrement de son huile, hein, mais elle veut retrouver celui que son cœur aime. Et c'est vraiment l'image du croyant qui s'est refroidi par rapport à Dieu. Dieu l'appelle, Dieu lui parle. Et puis on dit « Oh non, j'ai pas le temps là, j'ai d'autres soucis, excuse-moi. » Bon, même pas, on dit même pas « Excuse-moi au Seigneur. Hein. » Il n'a pas le droit à nos excuses, lui. Hein. On le laisse dehors. Hein. Et puis un jour, oh, une épreuve. On dit « Seigneur, viens à mon secours. » Oui, mais il n'y a pas de réponse. Il ferme la porte, il n'y a pas de réponse. On dit « Mais où il est, où il est ?» Et c'est là qu'il y a le test. Est-ce que c'est vraiment celui que mon cœur aime ? Parce que si c'est celui que mon cœur aime, je vais le chercher partout jusqu'à ce que je l'ai trouvé. Je vais prier, je vais m'humilier, je vais demander pardon, je vais me repentir, mais je vais trouver le Seigneur. C'est la preuve d'une vraie relation, d'un vrai amour avec Christ. Que le Seigneur nous donne de relire ce livre en pensant à tout ça. En appréciant la poésie, Louis II a fait un assez bon travail dans sa traduction pour faire ressortir la poésie hébraïque, ce qui n'est pas facile. Et puis pour imaginer, tiens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Qu'est-ce que ce verset me dit dans ma propre vie ? Que le Seigneur vous bénisse.